journal, Lénaïc Monnier.
Rentrez chez vous.
Le silence, le vide, enfin presque dans les rues de France. Les policiers et gendarmes doivent parfois hausser le ton pour faire respecter les consignes aux Français privés depuis midi de sortie. Édouard Philippe, de son côté, rappelle qu'il faut respecter ces consignes. Le chef de l'État est également revenu ce soir sur une interview d'Agnès Buzyn. Son ex-ministre de la Santé assure avoir pressenti le drame à venir.
Toutes ces polémiques, je les accepte, j'assume absolument toutes les décisions du gouvernement. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce combat que nous menons, il soit gagné.
Nous verrons aussi que l'espoir vient des chercheurs. Reportage dans ce journal à Marseille où l'on fait des tests cliniques sur le chloroquine. Dans ce journal également, on verra que les événements sportifs qui disparaissent un à un du calendrier impactent toute une économie. Euro, Roland-Garros, incertitude en revanche ce soir pour les JO de Tokyo, ce qui n'arrange personne, comme à la Fédération de Judo.
Nous, nos athlètes, ils font de la préparation physique, mais pour être fort en judo, il faut faire du judo, quoi. C'est pas sérieux.
De l'économie, il en sera aussi question, comme chaque jour, à 22h20, avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Son invité ce soir, Richard Prati, c'est le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français, autrement dit, des exploitants de salles, des salles qui sont désormais vides. Et puis bien sûr, la bourse et vos prévisions météo pour demain, avec Anissa Adani.
Europe 1.
Première journée donc de confinement. Aujourd'hui, les rues de France se sont vidées. 67 millions de Français, depuis la mi-journée, doivent se justifier pour sortir de leur domicile. Le confinement est entré en vigueur et pour 15 jours, 100 000 policiers et gendarmes sont donc déployés pour faire respecter les consignes avec plus ou moins de succès. Mais voilà, pas toujours facile de faire entendre raison à tout le monde. C'est un nouveau mode de vie que nous devons tous mettre en place. Et forcément, Guillaume Bié, ce chamboulement dans notre train-train quotidien ne va pas sans quelques perturbations.
Oui, parce que ça fait à peine 10 heures que les restrictions sont en place, donc les policiers et les gendarmes patrouillent et contrôlent pour les faire respecter, mais ils ne verbalisent pas encore les contrevenants. Ceci dit, à en croire la fermeté affichée cet après-midi à Paris par le préfet de police, le ton pourrait rapidement devenir plus répressif si les consignes de confinement ne sont pas respectées, avec à la clé, vous le savez, une amende de 38 euros qui devrait bientôt passer à 135 euros. Alors, la mise en œuvre de tout cela, elle est parfois un peu laborieuse. Ce que vous avez entendu là juste avant moi, c'était la commissaire du 18e arrondissement de Paris qui tentait vainement avec ses hommes de faire respecter les consignes en tout début d'après-midi dans un secteur très fréquenté du nord de la capitale. Et autour d'elle, les habitants incrédules qui faisaient leurs courses et qui avaient du mal à comprendre et à réagir. Alors on le répète, la règle, c'est bien de rester chez soi, ne sortir qu'en cas de nécessité absolue et se munir d'une attestation pour justifier son déplacement, à remplir ou à recopier sur papier libre, sous peine de risquer une contravention. Sachez d'ailleurs que les commerçants qui ne respectent pas les consignes de fermeture, eux, sont déjà verbalisés.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. En tout cas, et alors que ce soir la France compte 175 décès et 7730 personnes touchées par le virus, Edouard Philippe a redit sur France 2 que la chose était très claire. Il demande, je cite aux Français, de rester chez eux pour gagner le combat, tout en assumant certaines polémiques.
Je n'ai aucun doute qu'il y a quelques mois, il y avait des gens qui disaient « vous en faites trop » et d'autres qui disaient « vous n'en faites pas assez ». Je n'ai aucun doute sur le fait que dans quelques mois, lorsque, comme je l'espère, comme je le crois, comme je le sais, nous aurons franchi cette étape et nous aurons terrassé ce virus, certains diront « il aurait fallu faire autrement ». Toutes ces polémiques, toutes ces contestations, je les accepte, je les connais, je suis le chef du gouvernement, j'assume absolument toutes les décisions du gouvernement. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, avec l'ensemble des Français, c'est de faire en sorte que ce combat que nous menons, il soit gagné.
Édouard Philippe, qui en parlant de polémique, fait aussi référence à cette interview d'Agnès Buzyn. Ce soir, il riposte et assume, car dans cet entretien au Monde, l'ex-ministre de la Santé, qui est arrivé troisième à la course à la mairie de Paris dimanche, dit tout de go, Adrien Beck, qu'elle avait averti le chef du gouvernement des risques encourus à organiser des élections municipales en pleine propagation du virus.
Oui, on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade, voilà ce qu'Agnès Buzyn a déclaré a posteriori. Et voilà la polémique sur le maintien du premier tour des élections municipales qui rebondit non pas via l'opposition, mais grâce ou à cause de la candidate du parti présidentiel à Paris. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s'en saisissent, demandent des comptes. À La République En Marche, c'est la sidération. Si Édouard Philippe comme Emmanuel Macron se gardent bien de jeter de l'huile sur le feu, d'autres s'en chargent pour eux, mettent en avant l'impact psychologique de son score de ce week-end. Je pense qu'elle n'est pas dans son état normal depuis dimanche, dit un ministre. D'autres assurent qu'elle aurait même évoqué un possible retrait de la course à la mairie de Paris avant le second tour. Très vite, Agnès Buzyn dit dans un communiqué regretter d'avoir utilisé le mot mascarade, mais confirme avoir mis en garde Édouard Philippe dès janvier. Ce qui s'est passé est un suicide politique, lâche un conseiller ministériel, avec potentiellement des conséquences sur le président comme pour son Premier ministre.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1, voilà qui pourrait faire aussi polémique. Les autorités vont restreindre la vente de paracétamol. On le rappelle, c'est l'unique anti-inflammatoire qu'il faut prendre pour des douleurs si vous avez en parallèle le coronavirus. Il ne faut pas prendre de médicaments du type ibuprofène. En attendant tout ça, bien sûr, un vaccin sur lequel les chercheurs planchent actuellement très activement. Vaccin, mais aussi traitement. Des essais cliniques sur la chloroquine, un antipaludique, ont été menés à Marseille. Nathalie Chevalier, c'est à l'hôpital de la Timone que l'on a commencé à traiter les premiers malades. Et c'est qui sont prometteurs, qui sont étendus, a affirmé aujourd'hui la porte-parole du gouvernement, Sibiat Ndiaye.
Oui, ce sont 24 patients qui ont été traités par les équipes de l'IHU à la Timone, des hommes, des femmes de tous âges, volontaires, porteurs du Covid-19. Ils ont pris de l'hydroxychloroquine, un traitement antipaludéen bien connu qui ne coûte pas cher, 600 mg par jour en 3 prises. Et pour éviter les complications bactériennes, certains patients ont reçu en plus un antibiotique, l'azithromycine. L'objectif étant d'agir sur la charge virale dans le sang pour voir si le nombre de virus diminue ou pas. Et bien d'après le professeur Raoult, qui a mener cette étude clinique, cela fonctionne.
Ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait une différence très significative entre les gens qui étaient traités et non traités, la présence ou pas de virus, et d'autre part, les gens qui avaient pris de l'hydroxychloroquine plus de l'azithromycine avaient une réaction qui était encore plus spectaculaire, puisqu'ils étaient pratiquement tous curés de la présence du virus au bout de 6 jours.
Des résultats donc au bout de 6 jours de traitement seulement, 75% des porteurs ont aujourd'hui une charge virale négative, alors qu'un autre groupe témoin qui lui n'a pas été traité reste aujourd'hui porteur du virus à 90%. Cela veut dire que si le traitement fonctionne, cela permettrait de raccourcir la période de portage, c'est-à-dire que l'on est contagieux moins longtemps, le moyen aussi peut-être de mieux gérer l'épidémie.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille, traitement attendu au plus vite, car chez nous par exemple, on le disait, la maladie touche 730 personnes, un vrai problème de santé publique. Problème aussi d'économie et Bruno Le Maire a annoncé de nouvelles mesures pour aider les entreprises, Carole Ferry.
Ce plan, il prévoit une nouvelle mesure, un fonds de solidarité d'1 milliard d'euros par mois qui va permettre de verser une aide forfaitaire d'urgence de 1 500 euros aux petites entreprises les plus touchées. Les bars et restaurants qui ont été obligés de fermer, par exemple, mais aussi toutes celles qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Ça concerne les toutes petites entreprises seulement, celles qui ont moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le reste, ce sont des mesures que l'on connaissait, l'activité partielle, 8 milliards d'euros sur 2 mois, et puis le report des charges sociales et fiscales. Toutes ces entreprises qui ont le droit de décaler leurs paiements, 32 milliards au total, mais là c'est donc de l'argent qui rentrera plus tard que prévu dans les caisses de l'État, même si des exonérations exceptionnelles sont envisagées. Alors toutes ces mesures visent à éviter la faillite des petites et moyennes entreprises, mais les grandes entreprises ne sont pas forcément à l'abri, quand vous voyez que tous les avions d'Air France sont cloués au sol par exemple. Donc Bruno Le Maire a été très clair, il utilisera tous les moyens à disposition pour protéger les grandes entreprises françaises, y compris, a-t-il dit, la nationalisation si nécessaire.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Les entreprises qui donc doivent s'organiser pour maintenir leur activité tout en protégeant leurs salariés. Exemple de la difficulté rencontrée alors que les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire ont décidé de maintenir leur activité. Eh bien, les ouvriers, eux, refusent, ont refusé de commencer le travail ce matin. Le reportage de Charles Guyard.
On pourrait penser qu'une entreprise dont l'État est actionnaire majoritaire devrait montrer l'exemple au reste du pays. À Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique restent pourtant ouverts alors que les syndicats réclament leur fermeture depuis hier soir. Philippe Casse, le responsable de la communication.
Ils ont été partiellement entendus, puisqu'il y a fermeture des ateliers. Les usines qui ont des commandes, elles ne peuvent pas bénéficier de mesures de chômage partiel. Ce serait mettre en péril l'activité que de fermer complètement les chantiers.
Chantiers qui, en effet, ont acté la fermeture des ateliers Tôlerie ce mardi midi et ce pour 4 jours au moins. En attendant, il reste encore 5 à 6 000 personnes présentes sur le site, des sous-traitants sur lesquels la direction n'a aucune emprise, tient-elle à préciser. Mais pour Nathalie Durand-Primborg, une de Force ouvrière, le maintien d'une partie de l'activité, c'est un non-sens absolu.
Les chantiers, si vous voulez, tout le monde à Saint-Nazaire, un proche, un ami, un membre de sa famille, si vous avez ne serait-ce qu'un cas de coronavirus, ça peut prendre dans des proportions incroyables. Nous ne sommes pas une entreprise indispensable aujourd'hui.
Et une réunion avec la direction doit se tenir vendredi pour réévaluer la situation. Le lendemain, samedi, 1200 membres d'équipage déjà sur place à Saint-Nazaire doivent prendre la mer à la barre du Celebrity Apex, le dernier né des chantiers.
Le reportage de Charles Guyard au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, alors qu'Edouard Philippe a dit ce soir qu'il ne pensait pas que la France arriverait au point d'interdire des licenciements.
Europe 1, le journal de la nuit. Lénaïque Monnier.
Et loin, très loin de ces considérations, de nombreux franciliens, eux, ont quitté la capitale pour se mettre au vert ou rejoindre leur résidence secondaire dans une autre région. Mais c'était loin d'être la grande foule sur l'autoroute avec des airs où tout le monde semblait s'éviter. Reportage sur la 6 d'Axel May.
Sur l'autoroute, les panneaux lumineux de la sécurité routière invitent les automobilistes à respecter les mesures barrières pour faire face au coronavirus. Et dans cette station-service, juste avant l'heure du déjeuner, le parking est bien peu rempli. Pour preuve, écoutez, oui, ce sont les oiseaux qu'on entend au lieu des bruits de moteur. Les espaces de restauration sont fermés, seule une caisse pour le carburant est ouverte, avec l'employé abrité derrière une vitre. Parmi les automobilistes présents, il y a ce couple de retraités, plutôt l'air serein, mais qui a quitté en urgence, à l'aube, sa maison secondaire en Bretagne pour se confiner dans son domicile principal dans la Drôme. Un peu plus loin, une dame raconte qu'elle est allée chercher de nuit son frère à Paris et qu'il lui tarde d'arriver chez elle en Lozère. L'entrée en vigueur du confinement l'inquiète. On a fait un mot manuscrit pour expliquer notre trajet. À midi, au moment du passage en mode confinement sur l'autoroute, on croisait encore beaucoup de camions de marchandises autorisés à rouler, mais aussi des voitures, certaines chargé de bagages et fuyant la capitale.
Axel May pour Europe 1. On en vient au sport, très impacté par le virus. Pas d'Euro de foot en juin et en juillet, il va se tenir en 2021. Alors qu'on a appris également ce soir que Blaise Matuidi, l'international français de la Juventus, avait été testé positif. Roland Garros est également reporté. Le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison est quand même maintenu en 2020, mais il sera organisé du 20 septembre au 4 octobre, autrement dit une semaine après la fin de l'US Open aux États-Unis. Ce n'est pas l'idéal, certes, mais il n'y avait pas d'alternative pour Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis.
La seule solution qui nous semblait viable pour les intérêts supérieurs du tournoi et de la fédération était celle-là. Ensuite, j'ai eu des échanges avec l'ATP, la WTA et l'ITF pour leur expliquer, en tous les cas, que nous étions dans une situation exceptionnelle qui pouvait menacer, je dirais, le tournoi lui-même et qu'il était de notre devoir de faire en sorte que ce tournoi se déroule. Et puis je rajouterai, ça sera de toute façon un événement exceptionnel. La phase de préparation, j'en conviens, sera beaucoup plus courte.
Et propos recueillis par Corinne Boulou pour Europe 1, report également de Paris-Roubaix qui devait se courir le 12 avril sur ces fameux pavés. Pour les JO de Tokyo, là il est encore un peu trop tôt pour se prononcer, nous dit ce soir le CIO, mais ce doute qui plane, Julien Froment, s'en agace plus d'un.
Oui, une décision qui agace au sein des différentes fédérations sportives françaises. C'est le cas d'André Giraud, patron de l'athlétisme tricolore. Il ne comprend pas l'entêtement du Comité international olympique.
Je trouve que ce n'est pas une situation de dirigeant responsable, c'est tout. Ils encouragent à se préparer, mais dans quelles conditions? Facile, à mon avis, c'est des mots, ça. Ils encouragent à se préparer où? Comment? Quand vous entendez le président de la République qui vous dit que vous devez être tout seul, vous devez côtoyer personne, ça veut dire qu'un athlète ne doit même pas approcher son entraîneur.
Des arguments qui ont été rapportés à Denis Masseglia, le président du Comité national olympique et sportif français. Jean-Luc Bouget, lui, est le patron de la Fédération française de judo, pourvoyeuse de nombreuses médailles olympiques. Il ne croit pas un seul instant que les Jeux seront maintenus tels quels.
connaît bien les méthodes du CIO. Admettons que dans le monde, eh bien, les choses changent, eh bien, je crois qu'ils seront obligés de changer. Et moi, aujourd'hui, je pense fortement que les Jeux Olympiques, bien que le CIO annonce qu'il sera maintenu, eh bien, il ne le sera pas.
Reste à savoir si la France sera soutenue dans cette initiative. Les États-Unis, par la voix du président Donald Trump, sont également en faveur d'un report. Mais le CIO, qui doit prendre en compte les enjeux sanitaires et financiers, continue pour le moment d'avancer vers Tokyo avec des œillères.
Les explications de Julien Froment pour Europe 1. On jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. À présent, c'est nuageux au nord demain.
Oui, effectivement, les Naïcs avec, dès le début de la journée, de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, des brumes et des brouillards. Dans l'après-midi, le ciel va se dégager, je vous rassure, vous verrez le soleil. Attention, des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, nous aurons dans ces régions une alternance entre nuages et éclaircies. Sur les côtes bretonnes et le littoral de la Manche, là, le ciel est un petit peu plus sombre. Partout ailleurs, sur le reste des régions, demain, c'est une grande et belle journée ensoleillée. Les températures, 2 à 5 degrés demain matin sur la Bretagne, 3 à 8 sur l'ensemble de la France et jusqu'à 11 dans le sud-est. Dans l'après-midi, les températures, elles sont douces et elles augmentent encore. 12 à Cherbourg, 13 à Brest, 14 pour Dunkerque, 16 à Lille, 18 à Ajaccio et Strasbourg, 19 pour Paris et jusqu'à 23 degrés à Cahors.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
22h16 sur Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Ce sera juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil. L'invité ce soir, Richard Patry. Il est le président des exploitants de salles de cinéma. Des salles qui sont désormais vides. On en reparle, à tout de suite.
Europe 1.
Et à 22h17, bienvenue sur Europe 1. Comme promis, on fait un point sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier, on va commencer comme
bonsoir,
chaque soir par Wall Street, hein, évidemment, qui a repris quelques couleurs. Il y a eu de nouvelles annonces de la Banque Centrale Américaine.
Oui, ça va un petit peu mieux. Alors, c'est pas gagné, mais c'est mieux qu'hier. On avait chuté très lourdement de 12% à Wall Street hier. C'était une séance historiquement noire, puisque c'était la plus forte baisse depuis 1987. Ce soir, le Dow Jones reprend 5%, un petit peu plus, 5,2%, 21 238 points. Le Nasdaq plus 6,23%, 7 335 points. Un rebond, donc, après l'échec des annonces de soutien monétaire de la Réserve fédérale dimanche. La Banque centrale est revenue à la charge avec l'administration américaine. On surenchérit donc avec un plan de soutien qui irait jusqu'à 1 000 milliards de dollars, ciblant en particulier les secteurs les plus touchés par la crise actuelle, comme l'aérien, l'aéronautique, avec Boeing qui est en grande difficulté. Et puis parmi les autres options envisagées par Donald Trump, carrément, là, on aurait la distribution d'un chèque de 1 000 dollars aux particuliers américains afin de compenser la période de chômage technique en raison de l'épidémie. Alors évidemment, ça plaît à la bourse et ça fait remonter les valeurs qui avaient beaucoup souffert ces derniers jours. Apple remonte de 4%, Microsoft de 8%, IBM 7,6% de repris, Intel remonte même de 12%. Le pétrole, en revanche, reste assez faible, toujours sous les 30 dollars, 28,60 dollars, toujours déprimé donc par la situation entre l'Arabie Saoudite et la Russie. On a un pétrole qui baisse de nouveau. Ça n'empêche pas Exxon de rebondir. Le géant pétrolier américain reprend 6,7% ce soir. L'euro revient sur les indices, sur les devises face au dollar.
Et à Paris, Didier, on reprend aussi de la hauteur en clôture.
Oui, ça va un petit peu mieux. Alors, c'est pas non plus spectaculaire. Il faut quand même rappeler que le CAC 40 a perdu 40% en l'espace d'un mois. Ça reprend quand même 2,8% sur le CAC 40 aujourd'hui, 3 992 points, donc on se rapproche de nouveau des 4000 points. La nervosité est encore restée très forte sur les marchés aujourd'hui. Les valeurs les plus malmenées ces derniers jours ont tenté un sursaut comme du côté des télécoms Iliad, la maison mère de Free, qui a regagné 19% après des résultats en amélioration. On a aussi Orange qui a regagné 11%, et puis les distributeurs très sollicités en ce moment, ça rebondit de 12% pour Carrefour et pour Casino. L'automobile aussi, Renault regagne 10% à 16 euros après l'arrêt de sa production en France. Ça remonte un petit peu, il y a pas mal de spéculations autour de l'avenir du dossier Renault. Peugeot est stable à 11 euros, ça rebondit aussi sur Danone plus 8% ou sur Vinci plus 9%.
Et Airbus, en revanche, continue de s'enfoncer. C'est l'exception du jour. Pas de rebond, là.
Voilà, oui. Alors, c'est le secteur aérien, c'est le secteur aéronautique qui est le plus mal mené. Effectivement, ça descend, ça dégringole. Ça tombe encore de 8%, Airbus à 63 euros, alors que le groupe aéronautique met ses usines à l'arrêt en France et en Espagne, en raison donc de la situation sanitaire. Le titre Airbus a perdu plus de la moitié de sa valeur en l'espace d'un mois, sur fond de crise donc aiguë du secteur aérien. Les commandes ayant été stoppées du côté des constructeurs, Airbus et Boeing en très mauvaise position. Sur les autres places financières, on remonte quand même donc à Francfort, plus 2,2%, Madrid, plus 6,5%, Milan, plus 2,2%, Londres, plus 2,8%, et donc le CAC 40 en rebond de 2,8% à 3 992 points.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon. C'était Didier Hamot de Boursier.com. On passe à l'interview Echo. Je vous le disais, l'invité d'Emmanuel Duteil, c'est Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas, qui correspond donc à tous les exploitants de salles qui, depuis quelques jours, n'ont plus aucun spectateur.
Bonsoir Richard Patry, vous êtes le président de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Ensemble, on va revenir bien évidemment sur l'actualité, ces cinémas qui ont fermé il y a de cela quelques jours. Première question toute simple, comment ça va aujourd'hui du côté des salles de cinéma? Comment vous essayez de traverser ce confinement?
D'abord, effectivement, vous venez de le dire, tous les cinémas ont fait leur dernière séance samedi soir. Alors bon, sans mauvais jeu de mots et sans volonté de se rappeler de la chanson d'Eddie Mitchell, nous on espère qu'on va rouvrir, mais moi personnellement, pour être franc avec vous, je peux vous avouer que je suis très très triste. Voilà, bien sûr, il s'agit pour nous de respecter à la lettre les consignes du gouvernement. Néanmoins, moi je suis de ceux qui pensent que le cinéma est indispensable à la vie. Et donc forcément ça a été un crève-cœur pour moi d'éteindre l'enseigne de mon cinéma d'Elbeuf et de conseiller mes collègues pour la fermeture de tous leurs cinémas partout en France.
Et qu'est-ce qu'il en est de vos personnels? Tout le monde est au chômage partiel?
Alors, la quasi-totalité sont en chômage partiel. On a besoin, si vous voulez, dans les cinémas, on a beaucoup d'informatique maintenant depuis qu'on est passé au numérique. Donc, on a besoin de maintenir nos serveurs et nos projecteurs dans un état de semi-sommeil. Ça veut dire qu'il faut les réveiller de temps en temps parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des piles, il y a des batteries. Donc, on a des collaborateurs qui passent tous les deux jours dans les salles de cinéma vides pour faire un petit tour d'entretien. Et s'assurer que tout va bien. Mais sinon, la quasi-totalité de nos collaborateurs sont en chômage technique.
On vient de parler du cas des salariés. Qu'est-ce qu'il en est de vos entreprises, de ces exploitants de salles de cinéma? Est-ce qu'ils peuvent traverser cette crise?
Pour l'instant, en fait, on discute avec notre organisme de tutelle qui s'appelle le Centre National de la Cinématographie. Cet organisme, effectivement, réfléchit actuellement à des mesures à mettre en place pour sauvegarder les entreprises, les cinémas. Déjà, ils ont différé le paiement des charges, d'une charge spécifique qu'on a à payer. Vous savez, en France, il y a une taxe spéciale qui permet d'alimenter la machine et qui permet de faire cette exception culturelle, de produire des films. Pour l'instant, cette taxe est suspendue, son paiement est suspendu. Et puis, on réfléchit bien évidemment avec le CNC à d'autres mesures d'accompagnement qui peuvent être des loyers différés, qui peuvent être des reports d'échéances d'emprunt. En fait, vous savez, un cinéma, c'est une entreprise un peu comme une autre. Donc, on est confronté, je pense, à peu près au même problème que l'ensemble des PME françaises.
Et qu'est-ce qui va en être des films qui étaient en salle et de ceux qui doivent sortir? Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'on doit reprendre la vie normalement avec les mêmes films quand ça va repartir?
Il y a deux cas. Il y a les films qui étaient à l'affiche. Ceux-là, je pense qu'il en va de notre solidarité professionnelle de les reprendre. Il est très clair qu'un film comme La Belle Épouse n'a pas eu une carrière normale. Il a été complètement impacté. Je pense qu'il en va de la responsabilité de mes collègues afin d'être solidaires avec les distributeurs et les producteurs au moment où on va réouvrir, de remettre ces films à l'affiche et de continuer leur exploitation. Et en tous les cas, notre fédération va militer dans ce sens pour convaincre nos collègues d'agir de cette façon. Alors pour les films qui devaient sortir pendant la période, certains d'entre eux ont été décalés, d'autres devaient sortir. Pour cela, effectivement, le CNC réfléchit actuellement à des mesures de mise en VOD. Pour être franc, donc de vision à distance, pour être franc avec moi, je suis assez sceptique avec vous, je suis assez sceptique sur ces mesures. Mais bien sûr, si, parce que rien ne remplace la salle de cinéma, le grand écran, etc. Donc moi, je serais plutôt pour un rééchelonnement des sorties, sachant que nous avons aussi un vrai problème, c'est que l'ensemble des tournages est arrêté actuellement en France. Et que donc, les films qui devaient se tourner aujourd'hui et sortir en 2021, hein, pas à la fin d'année, mais en 2021, vont être décalés. Donc moi, je militerais plutôt pour un repositionnement général et un glissement général de l'ensemble. Mais en tous les cas, si certains films qui ne sont pas encore sortis en salle souhaitent sortir en VOD, alors que ce n'est pas totalement possible actuellement vu la législation, moi, je serais d'accord pour que on entame des discussions avec le CNC.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Canal+, qui a décidé de rendre accessibles ces chaînes, en clair, hein, à ceux qui ont des box?
Je trouve que Canal+, comme plein d'autres sociétés, sont des sociétés très citoyennes. Et oui, bien sûr, c'est une très bonne chose. Et voilà, vous savez, Canal+, est un partenaire du cinéma indispensable en France. Il n'est pas tout seul, avec Orange, avec tous ces autres opérateurs. Oui, bien sûr, c'est une très, très bonne idée. Hein. Mais voilà, malgré tout, le cinéma, c'est la salle. Enfin, voilà, un film, c'est ça se voit en salle. Donc j'espère que cette situation ne va pas durer trop longtemps et qu'on pourra, au cœur de nos territoires, vous savez, il y a 6000 salles de cinéma en France, il y a 2000 lieux, c'est une exception absolument unique au monde, hein. Vous savez, dans des villages de 1000 habitants, il y a même des circuits itinérants qui viennent au plus proche de la population, ça crée du lien social. Moi je souhaite vivre dans une société où les gens se rencontrent et pas dans une société où les gens sont confinés chez eux. Bien sûr, cet horrible virus nous contraint à ça, mais j'espère que très vite les Français reprendront une vie sociale et que tout cela sera derrière nous.
Un grand merci à Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Et en attendant, on retrouve également Emmanuel Taille, l'interview en intégralité sur notre site europe1.fr. Vous restez avec nous dans un instant. Comme chaque soir, on va jeter un œil sur les journaux qui vont paraître demain sur les principales unes. A tout de suite.
Europe 1. La libre antenne d'Europe 1 est à votre écoute dans quelques instants. La libre antenne, c'est votre moment d'écoute, de partage et de confidence.
Pour joindre Olivier Delacroix, appelez dès maintenant le 3921, 50 centimes la minute.
A tout de suite sur Europe 1.
Voilà donc ce que vous allez lire demain dans vos journaux avec La Croix qui nous raconte la vie d'une France en confinement. Reportages et témoignages à découvrir alors que la photo qui illustre la une est celle d'un homme d'un certain âge à sa fenêtre, les volets roulants descendus à leur moitié. Dans son édito, Guillaume Goubert analyse lui l'allocution présidentielle d'hier. Le gouvernement est donc prêt à mettre les grands moyens pour soutenir l'économie avec ce plan annoncé de 3 milliards. Toute la question, nous rappelle l'éditorialiste, est de savoir si une fois passé le pire de la crise, on reviendra aux affaires comme d'habitude, ce qui fut le cas ou quasiment après la panique de 2008. L'opinion revient aussi sur ce lockdown, ce moment où la France est bloquée, et de revenir sur ce plan, là aussi, mis sur le tapis. Et dans son édito, Raphaël Legendre décrit « C'est une première en France pour sauver des vies. Le gouvernement va devoir tuer l'économie. » Nos vies qui sont bouleversées, ça c'est Courrier International qui l'écrit à sa une, avec un dessin où l'on voit toutes sortes de personnes masquées mais collées les unes aux autres, chose que l'on ne devrait plus voir en France pendant 15 jours après la mise en place hier du confinement. Et justement, la place de la Concorde est vide à la une de Libé. Libé vide de voitures, de scooters, de piétons, où l'on voit pour une fois se dresser seul l'obélisque. Le grand vide, nous dit Libération, qui fait un tour de France au jour 1 du confinement, alors que le Figaro, lui, nous montre des policiers masque sur le nez qui verbalise ou informe les récalcitrants. C'est une nouvelle vie qui a commencé pour les Français. Et justement, si vous n'avez pas tout compris aux nouvelles mesures, l'Alsace mise sur la pédagogie et vous explique dans son édition de demain comment fonctionne la fameuse attestation, celle que vous devrez montrer si jamais vous sortez de chez vous. Voilà les grands titres de la presse locale et nationale de demain. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Lénaïque.
On accompagne, va vous accompagner les auditeurs toute la soirée sur Europe 1. Le numéro de téléphone pour vous joindre, le 3921.
Exactement, et je vous retrouve tout à l'heure, à 23h pour le Flash.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.